Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir, Julien Cellier, Céline Landreau.
Et oui, regardez l'heure, 18h40, l'heure tous les soirs de défaire le monde avec Céline Landreau, Laurent Tessier, Nerissa et Mani. L'info autrement, c'est la promesse, jusqu'à 19h. Le menu, Céline.
Ce soir, dans Défait le monde, on décortique votre cerveau d'électeur. Vous pensez voter en conscience, faire un choix rationnel? A priori, vous vous trompez. À 3 jours du premier tour, on va tout vous expliquer. Au menu également, des crocos mal aimés, une note de rouge à lèvres et du skitoyen. Non, non, ma langue n'a pas fourché. On défait le monde, la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
35% des électeurs sûrs d'aller voter dimanche ne savent pas encore vraiment pour qui.
Comment choisir un candidat?
Ça se passe dans le cerveau.
Eh oui, le vote pour la présidentielle, ça se passe évidemment dans l'isoloir, mais pour le choix, eh bien c'est dans le cerveau que ça se joue. Alors avec l'équipe d'On défait le monde, on s'est interrogé sur les mécanismes cérébraux qui entrent en jeu.
Qu'est-ce qui influence notre choix? Comment notre cerveau choisit-il tel ou tel candidat? Quels sont les ressorts de nos décisions électorales?
Alors pour tout comprendre, pour savoir comment tout ça se joue, on a joint Philippe Damier. Il est professeur de neurologie au CHU de Nantes, auteur notamment de « Décider en toute connaissance de soi » chez Odile Jacob. Et d'abord, ne pensez pas que votre choix n'est basé que sur des arguments rationnels, vous vous mentez.
On pourrait penser, surtout dans le pays de Descartes, qu'on va faire un choix rationnel, qu'on va analyser les côtés positifs, négatifs, des propositions des différentes candidates et candidats. Mais en fait, on est des êtres extrêmement sensibles et l'émotionnel prend une place majeure. On est beaucoup plus sensible, finalement, aux expressions du visage, aux gestes de la personne, au ton de la voix, qu'à ce qui est effectivement dit. Ce qui est effectivement dit, c'est 10% de l'information qui rentre. Et finalement, alors qu'on a l'impression d'être rationnel, on est très influencé par notre émotionnel.
Mais c'est-à-dire concrètement?
Très concrètement, vous ne vous en rendez pas compte évidemment, mais ce ne sont pas les mêmes zones de votre cerveau qui travaillent.
Ce qu'on devrait idéalement activer pour faire un choix rationnel, c'est la partie avant du cerveau, le cortex frontal dorsolatéral. Donc là, c'est vraiment celui qu'on met en jeu quand on calme, on réfléchit, on prend une décision rationnelle. Mais en fait, on a plein de circuits automatiques sous-jacents qui impliquent, entre autres, les émotions et d'autres automatismes de pensée qui sont très importants pour que notre cerveau fonctionne vite. Donc je pense prendre une décision rationnelle, mais j'ai des éléments émotionnels de peur, par exemple, qui vont impliquer une structure qui s'appelle l'amygdale. La peur, c'est un système qui fait référence à des choses qui sont dans notre cerveau, sélectionnées par une évolution très longue pour nous protéger contre des dangers vitaux potentiels. Donc c'est très fortement câblé, ça va pouvoir court-circuiter beaucoup de choses. Donc dès lors qu'on est dans une situation de peur, on va surréagir et complètement freiner notre rationnel.
Et ça, les politiques le savent?
Oui, bien sûr, ils le savent.
Bah oui, quelle question.
Évidemment, ils en jouent.
Les politiques le savent très bien, ils travaillent beaucoup justement sur le message émotionnel, en tout ce qui va être joué sur l'image, sur des images fortes, un événement, une photo, beaucoup plus que finalement aller détailler un programme, des mesures précises. Donc tout ça est réfléchi et travaillé et fait passer des messages, pas forcément dans l'étage complètement conscient des personnes, mais qui peut être assez fort et qui peut les imprimer.
Voilà, pensez-y dimanche dans l'isoloir, vous vous sentirez peut-être un peu moins intelligent, mais...
C'est fascinant, à la fois effrayant et fascinant.
RTL, sous les radars.
Allez, tous les soirs, on défait à 7h-ci une info passée sous les radars.
Rappelez-vous, début janvier, le monde entier avait les yeux tournés vers le parc hôtel de Melbourne en Australie. C'est là que Novak Djokovic avait été placé en détention provisoire, mais il n'était pas seul, d'autres réfugiés étaient détenus à ses côtés. Et c'est d'eux que vous vouliez nous parler, Laurent.
Oui, ces demandeurs d'asile ont dû être beaucoup plus patients pour retrouver la liberté. Ils viennent d'être libérés après plus de 2 ans d'attente de calvaire. 8 personnes qui devaient au départ recevoir des soins médicaux. Ce sont les derniers réfugiés à quitter le parc hôtel. Cet établissement, vous le disiez Céline, désormais connu du monde entier.
Et leur libération, Laurent, elle a un lien avec le passage de Djoko?
Alors, en Australie, la décision interroge. Le gouvernement australien n'a fait à l'heure actuelle aucun commentaire. Mais certains élus de l'opposition pensent que les autorités fédérale utilise la libération des détenus à des fins politiques. Des élections législatives et sénatoriales auront lieu dans quelques semaines. On estime qu'une dizaine de demandeurs d'asile sont encore détenus dans le pays, mais eux n'ont pas bénéficié de la couverture internationale du parc hôtel et de Novak Djokovic.
Effectivement, l'info était passée sous les radars, mais vous voyez loin, vous, jusqu'en Australie, cher Laurent. Allez, petite pause, on continue de défaire le monde ensuite dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. Quand vous allez dire, au fait, chérie, les impôts, ben, vous allez avoir une occasion de briller.
défait le monde.
Julien Cellier, Céline Landreau. L'info pour briller dans On défait le monde.
On défait toujours le monde dans RTL Soir et à quelques minutes peut-être du dîner, si vous dînez tôt parce qu'il n'est que 18h46, voici une première info. Pour faire le malin autour de la table.
Et la première, elle concerne votre déclaration de revenus. Ça y est, la campagne est lancée. Vous pouvez faire votre déclaration depuis ce matin sur le site des impôts. Mais avant de payer, vous, Laurent, vous voulez comprendre.
Ah, oui. Ah, quel
toujours.
Radin,
et vous êtes demandé,
je sors la calculatrice.
Vous êtes demandé comment il était né, cet impôt sur le revenu.
Eh bien, l'impôt sur le revenu a été créé pour financer la Première Guerre mondiale. On est le 15 juillet 1914, vous en souvenez, Julien. Quelques jours avant le début du conflit, le gouvernement, avec le ministre des Finances, Joseph Caillaux, réfléchissait à des moyens de financer tous les efforts qui allaient coûter cher au pays avec cette guerre à venir. L'impôt sur le revenu est alors vendu comme un impôt patriotique. Et à ce moment-là, ça va vous intéresser. Moins de 20% des foyers fiscaux étaient concernés et les plus lourdement taxés étaient à seulement 2%.
Mmh. Ah oui, c'était cadeau. Quoi.
Imaginez.
On en est loin.
Effectivement. Bon, du coup, quoi, vous allez payer vos impôts quand même, Laurent.
Toujours.
Toujours, évidemment. Un citoyen modèle.
Voilà. Si on m'écoute.
Julien Cellier, Céline Landreau.
Allez, winner ou loser. Tous les soirs, vous le savez, le suspense est insoutenable. Et cette semaine, c'est Nerissa Evani qui tranche. Ce soir, Nerissa n'a peur de rien. Elle s'attaque à un monument de la mode.
Oui, très à cheval sur le style. Nerissa, vous épinglez Crocs, la marque de chaussures, et pas pour sa nouvelle collection.
Oui, Crocs, vous savez, la marque de chaussures la plus laide du monde. Certains diront confortable, d'autres ultra à la mode. Un sabot en plastique troué, quoi. Eh bien, Crocs a mis en demeure une petite équipe française de hockey sur glace.
Nîmes Hockey Club, les Crocos.
Le Nîmes Hockey Club Les Crocos, qui joue en 3e division. En fait, le problème, c'est leur surnom et leur logo, qui ressemblent apparemment un peu trop à la marque américaine. Oh. Ouais, du coup, Crocs demande au club de retirer le crocodile de son logo et de renoncer à sa marque. Ce que refuse, bien sûr, le président nîmois, Florent Marès. Je l'ai contacté tout à l'heure.
C'est ubuesque, en fait, vraiment. C'est marrant, c'est un film de Wes Anderson, quoi. Moi, je suis obligé de mettre un crocodile, on est les crocos. C'est le blason de la ville, un crocodile, un palmier. Si je devais changer ce logo, je ferais un crocodile d'une autre manière. Sinon, après, bah, c'est qui? C'est Lacoste qui va m'attaquer. Et on va pas s'appeler autrement. C'est pas pensable.
Surtout qu'il n'y a aucune concurrence, vous l'imaginez, avec la multinationale.
On n'est pas une start-up, on n'a pas fait une levée de fonds pour rentrer sur la bourse, pour inonder le marché, quoi. On vend juste 5 suites à la fin des matchs, 2 paires de casquettes pour gagner un peu de sous pour notre assoce, en fait. C'est tout.
Florent Marès qui espère encore que l'histoire se tasse. Mais le club devrait peut-être demander l'aide des ambassadeurs français de Crocs. Et pour ça, on peut compter sur une ambassadrice bien fidèle. J'ai nommé Roselyne Bachelot.
Bon, ça, c'est des Crocs customisés. Ah, celle-là avec les dauphins sont super.
La ministre qui discute Crocs avec des infirmières.
Vous savez que j'ai donné les miennes à une œuvre caritative qui s'occupe d'enfants handicapés. Ils les ont quand même vendus 800 euros.
Ah, bien.
Quand même.
Quand même. 800 euros quand même pour des Crocs. Et je vous laisse deviner la couleur.
Le rose, ça a été ma couleur. J'ai même porté des Crocs roses à la sortie du Conseil des ministres.
Oui, en 2008, les Crocs roses pour fêter les 40 médailles de la France aux JO. Un choix audacieux, du jamais vu à l'Élysée, mais validé quand même par la reine du shopping, Christina Cordula.
Mais tu sais que c'était pas mauvais, hein, avec ton tailleur pantalon super chic, avec cette chaussure qui décalait complètement. Je suis sûre que t'as fait exprès.
Bon, alors les crocos de Nîmes, eux, n'ont pas fait exprès. Et pas sûr que ce soit un bon coup de pub pour la marque de sabots
en
plastique.
Oui, bah, franchement,
vous les avez ravillés pour le printemps, là.
Oui, c'est clair. Les pauvres crocos, quoi.
C'est pas ce que je préfère.
Ah non, c'est les pauvres crocos. Vous avez déjà apporté des crocs autour
même
de la
pas
table
jamais.
Non. Non,
c'est...
Ah non,
je n'ai vexé personne. Julien.
Non, jamais, non. Non,
vous avez mis du temps à répondre.
Oui. Ouais.
Non, je n'ose pas le dire.
Personne n'assume surtout.
Ouais, c'est ça.
Allez, une petite pause dans un instant. Nouvelle info pour briller au dîner. Un petit peu de rouge à lèvres. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde.
Julien Cellier, Céline Landreau. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h53, on défait toujours le monde dans RTL Soir et on vous offre une nouvelle occasion de briller tout à l'heure au dîner.
Délaissé pendant la pandémie, le rouge à lèvres fait son grand retour. Les ventes ont bondi en parfumerie, 35% de plus depuis la fin du port du masque obligatoire. Et sachez-le, mesdames ou messieurs d'ailleurs, hein, chacun fait ce qu'il veut, quand vous mettez du rouge à lèvres, vous faites quelque part honneur au génie français, n'est-ce pas Nerissa?
Oui, alors même si le fait de se colorer les lèvres remonte à la civilisation mésopotamienne, le premier bâton de rouge à lèvres, le premier tube, il est français.
Ah.
Ouais. Cocorico. Il a été créé par Guerlain en 1880. Il s'appelait Ne m'oubliez pas. C'était une pommade. Oui, c'était joli. C'était une pommade rose en cire avec du beurre aux extraits de pamplemousse dans un étui à poussette. Et il était même rechargeable.
Rechargeable. C'est rechargeable ou pas, de manière générale, le rouge à lèvres?
Rarement. Hein.
Non, non. Je sais pas, j'y connais.
Non, je ne me regardais pas. Hein.
Vous n'êtes vraiment d'aucune aide, Laurent. Bleu, blanc, rouge à lèvres. Donc j'aime beaucoup cette info pour briller au dîner. Je vais m'en servir. Désolé, Laurent. Je donne le point à Nerissa.
Vous
ce
m'avez
soir.
Oublié, en l'occurrence.
Marche ou rêve.
Allez, tous les soirs, un petit coup de fil pour mettre en valeur de belles idées, les vôtres. Mais dites donc, Céline, nous sommes jeudi.
Et comme tous les jeudis.
Il va y avoir du sport, mais moi je reste.
Oui, du sport, mais à trois jours du premier tour du sport citoyen, mesdames, messieurs. Et pour ça, Laurent, vous avez décidé de chausser les skis.
Oui, préparez le bonnet, la combinaison, mais seulement si vous allez voter dimanche. En Haute-Savoie, la station des Jets propose le forfait de ski à 1 euro pour tous les électeurs du premier tour. Bonsoir, Benjamin.
Bonsoir.
Vous êtes à l'initiative de l'opération Tous Skitoyens. Apprécié le jeu de mots. Comment vous est venue l'idée?
En fait, on souhaitait participer à notre humble niveau à lutter contre cette abstention qui s'annonce record pour la présidentielle. Donc voilà, on a eu l'idée de cette opération pour inciter les gens à aller voter, mais aussi enchaîner sur une belle journée de ski en proposant un tarif imbattable. D'autant que ça tombait bien pour la date, puisque ce premier tour de l'élection présidentielle, ça correspond à notre dernier jour d'ouverture pour le domaine skiable.
Comment ça marche typiquement? Je vais voter le matin, je vous montre ma carte d'électeur. Comment on procède?
Il faut une preuve.
Voilà, exact. Il faut bien faire tamponner sa carte d'électeur. Hein. Si vous présentez votre carte d'identité, on ne pourra pas effectivement voir si vous avez voté. Donc, nous, il faut nous amener la carte d'électeur tamponnée, mais ou une procuration valide qui a été validée par l'administration. Et là, on peut vous faire le forfait à 1 euro. Ça marche aussi pour les enfants. On ne les a pas oubliés parce que nous, eux, non, n'ayant pas le droit de vote, tout enfant qui viendra avec un adulte ayant voté se verra voir le même prix pour son forfait.
Et quel que soit le vote. Hein.
Oui, bien sûr, on ne va pas aller jusqu'à vous demander votre vote. On prend tous les votes. La question se pose, les gens nous posent la question. Mais voilà, on pensait que c'était une bonne initiative. Souvent, on nous oppose aux scrutins électoraux. Les loisirs, j'entends, les spécialistes vont vous dire que l'abstention, les gens, ils faisaient beau, les gens ils préféraient être à la plage, à la montagne, dans un parc. Nous, on ne se résout pas à ça. On dit on peut faire les deux. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'être un peu proactif et inciter les gens à voter et à skier sur la même journée.
C'est la première fois que votre station met en place ce genre d'événement?
Oui, c'est la première fois, puisque c'est la première fois aussi que les dates s'y prêtent bien, puisque l'élection présidentielle ayant été avancée, on est encore ouvert à cette époque. D'habitude, les élections nationales sont plutôt mai-juin, où on est déjà fermé, mais là, on est encore ouvert. Et puis, il a neigé le dernier week-end, donc les conditions sont super bonnes et il nous annonce beau en Haute-Savoie ce dimanche. Donc, il y a tout pour faire.
Donc vous attendez du monde?
Exactement, on sent une certaine effervescence, ça commence déjà à appeler. Les gens nous demandent est-ce que c'est pas un poisson d'avril, c'en est pas un, je vous rassure. Il y a une petite effervescence qui monte autour de ça. Et on est bien content de partager ce dernier jour entre skieurs votants.
Un vote, un forfait de ski à 1 euro, voilà un beau programme si vous êtes dans le coin en Haute-Savoie. Merci Benjamin.
Merci à vous.
Merci Benjamin.
Et on va dire la vérité, on est un peu déçus de travailler dimanche du coup.
Bah, oui. d'habiter aussi loin déjà. Aussi. Mais très belle initiative en tout cas. Bravo à Benjamin. Merci à vous les amis dans Défait le Monde. On rappelle que si les auditeurs ont, comme Benjamin, de très 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 bonnes idées et qu'ils veulent que l'équipe les mette en avant à l'antenne, c'est très simple, il suffit de nous contacter.
Et pour ça, vous pouvez joindre Laurent, le compte Twitter On Défait le Monde, la page Facebook. Et puis si vous avez des goûts un peu surannés, comme moi par exemple, envoyez-nous une carte postale.
Ah oui.
Ça marche toujours, le courrier.
Ah oui, les cartes postales. On pourrait les afficher dans le bureau.
Ce serait formidable.
Ah oui, envoyez-nous des cartes postales. On postera les meilleures sur les réseaux sociaux. C'est pas mal ça comme.
De la station DG, tiens.
De la station DG, pourquoi pas.
Donc on va donner l'adresse pour pouvoir les recevoir.
Allez-y.
56 avenue Charles de Gaulle, 92-200 Neuilly-sur-Seine.
On attend les cartes postales, chers amis auditeurs. Merci à vous. La bande d'On défait le monde. Demain, 18h40, on refera comme chaque vendredi nos
régions
dans RTL Soir. La météo des régions. Tiens, juste.